Bonjour. Depuis quelque temps, les prix des boissons sucrées, la bière, surtout les boissons sucrées, ont augmenté de 20 à 50%. Parmi les explications avancées, la forte demande des consommateurs pendant les fêtes de fin d'année. Curieux, les fêtes sont passées, les prix des boissons n'ont pas baissé. Pourquoi? On le saura tout à l'heure. Une majeure partie de la ville de Bukavu est plongée dans le noir depuis plusieurs jours. Le courant électrique n'est souvent remis que vers 23h ou à minuit pour être coupé encore vers 4h du matin. Cette situation date depuis au moins 3 semaines. Elle s'est accentuée pendant les festivités de fin d'année. La panne d'un transformateur à la centrale Ruzizi 1 et la baisse du niveau des eaux du lac Kivu serait à la base de la situation. Pourtant, c'est la saison des pluies à Bukavu et dans la zone. Une association Fraternité Internationale des Copains a vu le jour à Butembo. Objectif, entraide mutuelle, octroi des bourses aux écoliers et aux élèves qui se sont distingués à la fin du cycle primaire ou secondaire. Cette initiative louable risque de s'étouffer dans son œuf. En effet, tout le monde n'est malheureusement pas prêt à garnir la caisse d'entraide. Et puis à Bounia, de nombreux enfants passent la nuit dans les rues, à la Belle Étoile ou encore devant des magasins. Paradoxal lorsque l'on sait que beaucoup d'ONG de protection de l'enfance interviennent dans le chef-lieu de l'Ituri. Est-ce par manque d'encadrement ou bien ces ONG qui s'occupent des droits de l'enfant manquent de moyens? Tentative de réponse dans Okapi Action. Et avec vous, si vous appelez au 081 890 68 90, c'est reparti. Dédicace Shamait à la régie, Jean-Noël à la mise en onde pour la première partie. Arlette, qui reçoit les courriers de nos auditeurs. Et puis Nathalie, la régie, et toute l'équipe, Nicole Ngaka, qui vous a appelé, qui vous contacte, qui contactera nos invités tout à l'heure. Walter Mulondi Mayani au micro. Nous sommes ensemble pour 2 heures de vie à travers la République démocratique du Congo.
Okapi, pour que la paix ne soit pas qu'une belle idée.
Pourquoi les prix des boissons sucrées ont sensiblement augmenté? C'est d'une proportion de 20 à 50%. Parmi les explications avancées, on dit la forte demande des consommateurs pendant les fêtes de fin d'année. On pouvait le comprendre, mais aujourd'hui, nous sommes le 12 déjà, les fêtes sont passées, les prix des boissons n'ont pas baissé. Dona Madimba.
Des bouteilles qui crépitent, des gens, casse-croûte à la main, qui commentent encore les manifestations populaires de la veille à Kinshasa. Nous sommes dans une buvette du centre-ville. Il est bientôt 13h ce 11 janvier 2005.
Il y a gâteau, mais sucré. Sucré, nous sommes à 150 francs, nous sommes à 100 francs. Gâteau, ils se dit 50 francs, comme ils se dit 70. Moi, je pense que vraiment, pour comprendre notre sujet.
Là, il y a la mélima sucrée. Ah, dans mon gâteau, normalement, il y a. Sommi sucré, 150 francs, gâteau, 70 francs.
Des boissons sucrées, rares pendant la Saint-Sylvestre, disponibles aujourd'hui, mais servi à un prix que la population considère désormais de plus qu'exagérément élevé.
Si différence des alliés matières commis trop cher, biso tozo kokate. Les bossos bandos sont à combien? 100 francs, 53 au lieu bien. Donc avec 153 au lieu, au PMI bien, au Kyo, ça y est, là. Mais si pour maintenant, là, bon, ils ont un bon côté pour. Mbongo est comme belé dans la ville, mbongo est comme passe pour nous aurons, mais il y a un réseau matarara.
Bon, pour l'instant, la monnaie, vraiment, le gouvernement essaie de le router. Pour bien, il y a 300 francs, il y a 400 francs, il y a 56, il y a 100 francs, et comme 150. Finalement, tu es un petit wapi. Hein? Tu es un petit wapi. Tu es un petit wapi. Toi, douleur est comme ça, combien? C'est 46 ou 47, oui. Finalement, tu comprends. Le nouveau chef de l'État a un problème aussi sous Kanenini.
Cela fait au moins 10 jours que cette situation de la hausse du prix des boissons perdure. Mais qui donc est à la base de cette surenchère? Un revendeur de boissons sucrées au centre-ville à Kinshasa tente une réponse.
L'aliment, c'est clair que on a 2000. Mais aucun dépôt. Au moins, dans mon sous, aucun sous magasin sucré, on a 2700, 3000. Alors, si nous allons vendre, au côté qu'on a combien? Au moins déjà qu'il y a une hausse depuis, pas dans l'année, mais on a créé un monde pour avoir un monde. Au moins une mentalité, on a évité la vie au Congo. Et nous, on a noté. On a créé un monde pour avoir un monde, ceux qui ont besoin de casier secret, ceux qui sont rares, dès que mon camion va aller mettre les mains, qu'est-ce que tu fais? Tu t'avances vers un tour et tu comme ça. Tu as des casiers combien? Ils ont 2000, mais ma sang est ça. On a déjà, tu as déjà pont. Quand tu as un casier, tu as un casier, tu as un casier, c'est ça qui se passe ici.
Un point de vue que ne partagent pas du tout les brasseries du pays. Des brasseries qui rejettent d'être à la base des déboires vécus par la population ces jours-ci. Une population qui, du reste, ne cache pas son impuissance à faire changer cette situation pour le moment. Elle s'en remet pour cela aux autorités du pays.
Nous allons ramener les services. Tout ça, ce qu'on dit. Et nous allons la prier en bon. Soyez matis, tout ça, nous serons montés, nous allons être au sommet. Pour nous, on s'en fait zati.
Moyen de bouder comme ça, bateau se fixer la pluie, peut-être va au Kitsango.
Faut tout lire.
Voilà, ces boissons sucrées ou bières, on les consomme régulièrement lorsqu'il fait chaud, lorsque l'envie vous arrive. Mais vous avez constaté vraiment que les prix ont augmenté, c'est d'une proportion de 20 à 50%. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, après les fêtes, ils ont augmenté les prix? Peut-être de bonne mémoire, je voudrais être contredit avec des chiffres à l'appui. L'année 2003, pendant les festivités, il n'y avait pas eu une telle hausse des prix des boissons. Pourquoi seulement entre la fin de 2004? On va chercher à le savoir tout à l'heure. On a même entendu un peu d'ambiance dans le reportage tout à l'heure que Donna Madimba nous a proposé. Nous devrions recevoir des invités de la Bralima et de Bracongo. Aux dernières nouvelles, ils nous répondent. Ils n'ont pas fermé les téléphones, mais ils nous répondent simplement qu'ils n'ont pas reçu l'autorisation de leur chef hiérarchique pour venir parler de cette flambée des prix des boissons aussi bien sucrées que alcoolisées au niveau de Kinshasa, de la RDC. Ils n'ont pas reçu l'autorisation de venir parler et donc nous n'aurons pas leurs explications officielles, mais on ne va pas s'arrêter ainsi bouchement, on va tenter de forcer les portes un peu plus tard, mais parce que l'émission continue et elle est en direct, nous n'avons pas le choix sinon de se reporter sur Donna qui a fait un reportage qui a passer des quarts d'heure, pas toujours agréables, dans les bureaux des uns des autres, en train de chercher à obtenir leur consentement pour qu'ils se déplacent jusqu'à nos studios, Donna. Alors, comment vous, personnellement, actuellement, expliquez-vous le fait que Ils refusent de venir nous expliquer pourquoi il y a cette hausse de l'ordre de 20 à 50%.
Ben, c'est, on peut l'imaginer, hein. Pour le moment, les uns et les autres se sentent un peu embarrassés de cette situation qui arrive. Une hausse du prix des boissons, aussi bien sucrées que la bière. Hausse qui, pour le moment, ne se justifie pas encore. En tout cas, personne jusqu'ici n'est passé expliquer comment on en est arrivé là. En cherchant à voir justement la réponse à cette question, hier j'ai pu contacter, je me suis déplacé physiquement moi-même jusqu'à Bralima, et sur Flambeau, ex-Flambeau. Je n'ai même pas
avenue Cabacele.
Cabacele actuellement. Je n'ai même pas été autorisé d'accéder au bureau de l'administration. Donc vous vous rendez compte, on m'a reçu à la réception. On m'a pratiquement pas donné la possibilité d'y aller parce que bon, je ne peux pas, jouer le bandit. Oui. Mais on m'a donné les coordonnées d'un monsieur qu'on m'a présenté comme étant le responsable de chargé de la communication de Bralima, qui lui devait me mettre en contact avec sa hiérarchie. C'est un certain monsieur Serge, on m'a pas donné plus de noms que ça. Et c'est lui avec qui on parle encore jusqu'à maintenant en essayant de savoir si on arrive à avoir un responsable qui soit susceptible de nous donner des réponses. Mais il m'a quand même donné un certain nombre d'éléments. Pourquoi est-ce que, par exemple, le Coca
pour les produits Bralima
et le Fanta qui sont des produits Bralima sont maintenant en train d'être vendus à 150 au lieu de 100 francs comme il y a encore quelques semaines? D'abord, il me répond que au niveau de leur dépôt et de la vente en gros de Bralima, le prix n'a pas changé. Et effectivement, vous avez entendu dans le reportage que le revendeur confirmait ça, que le casier de 24 bouteilles de sucré coûte toujours 2000 francs, comme il y a encore quelques semaines avant les fêtes.
Et le prix à l'usine.
Et le casier de bière reste à 3100 francs. Ça, c'est le revendeur l'a confirmé.
Cela n'a pas changé.
Mais il m'avoue ne pas comprendre pourquoi, au niveau des revendeurs ou des dépôts, parce que le revendeur, lui, nous renvoie au dépôt. Il dit que c'est les dépôts et les autres chargeurs, en fait, intermédiaires entre l'usine et la consommation, qui jouent à la surenchère pour essayer certainement de jouer avec l'offre qui est devenue un peu plus grande pour essayer de se faire de l'argent. Ça, c'est du côté Bralima. Du côté Bracongo, j'ai pu avoir celui qu'on m'a présenté comme étant l'un des directeurs commerciaux, directeur Ndeke, avec qui on a parlé encore il y a quelques minutes. Lui aussi, il me dit que le prix de la boisson à l'usine n'a pas changé. C'est toujours, pour les sucrés, toujours 2000 francs pour un casier de 12.
Il faut dire que c'est la série des Gino.
Oui, c'est la série de Gino. Alors,
Et la Skol
La Skol reste avec la Primus à 3100 francs le casier.
Voilà.
Donc, pour le moment, eux, ils n'arrivent pas à expliquer pourquoi. Mais vous savez, quand je relance les uns et les autres, à la Bralima par exemple, on me dit, je pose la question, est-ce que ça signifie que pour le moment, vous n'avez aucun autre moyen pour vous faire ramener vos prix à leur application ferme? Il me dit, pour le moment, on est un peu embarrassé parce que je ne peux pas vous dire qu'on va le faire ou qu'on ne va pas exiger que les consommateurs payent plus parce que nous sommes dans la démarche de faire rehausser nos prix.
Il y a un goût sous-roche, une chose est sûre, parce qu'on ne peut pas comprendre que les prix soient échangés au niveau de l'usine et que à partir des revendeurs et de ceux qui ont les dépôts jusqu'aux consommateurs dans les différents bistrots, que les prix aient augmenté. Est-ce que les fluctuations du taux des dollars de la Madimba n'expliqueraient pas ceci ou cela?
On ne peut pas dire totalement oui. On ne peut pas aussi dire totalement non. On constate. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'avant les festivités, le dollar était changé à la cité, parce qu'on va parler du taux officiel tout à l'heure. À la cité, le dollar était changé entre 42 et 44. Et on a vu que après la Noël et juste avant et même maintenant, le dollar est passé à la cité de 46 à 47, 48 et même... Moi, je ne peux pas généraliser, mais moi, j'ai pu changer même jusqu'à 50 il y a deux jours. Donc, vous vous rendez compte, alors que le taux officiel nous a donné
pour la Banque centrale,
pour la Banque centrale les deux derniers jours qui ont précédé, hein, c'est-à-dire le 10 et le 11, pour le 10,
avant-hier,
ouais, la Banque centrale marque donc 459,85
pour le 10.
Ça, c'est pour le 10.
Et le 11?
Et le 11, on est passé à 45, c'est-à-dire 458,57.
Il y a eu baisse, c'est-à-dire amélioration de la monnaie nationale par rapport à la devise américaine.
Donc, finalement, on ne comprend plus.
Il y a une tendance à la normalisation, à la baisse des taux.
À la baisse. Et du coup, on ne comprend pas pourquoi il y a cette surenchère. Et même, cette surenchère est tellement perceptible au niveau des boissons que ça commence à affecter les autres denrées. Parce que je suis passé très rapidement hier au marché pour essayer de voir. J'ai pu constater, par exemple, que les denrées sont passées facilement à 50 francs. De plus par rapport à...
C'était pour faire vos emplettes ou quoi?
c'était pour fournir le sujet.
De temps en temps.
De temps en temps, bien entendu.
Bon, on va écouter un auditeur qui réagit par rapport à la question.
Faustin Bangal. Juste parce que les problèmes qui se passent dans notre pays, je dirais que c'est l'irresponsabilité de nos autorités de la place. C'est-à-dire ils ne savent pas où se mettre, comment diriger ce pays. Ils sont là peut-être pour bouffer, pour s'accaparer de leurs biens, si ça va, ils partent. Et donc nous la population qui nous sommes des victimes, c'est ainsi que je voulais seulement que la population congolaise puisse se prendre en charge.
Ben voilà. Bangala, je pense que il y a eu une perte d'une partie d'éléments. Hein. C'est des caprices informatiques, je pense. Monsieur Bangala, si vous nous avez suivi, ne nous en tenez pas rigueur. On va rapidement, très rapidement corriger cette insuffisance informatique parce que ce n'est pas dans son entièreté. On l'a même senti vers la fin. Le téléphone s'est coupé. Ah voilà, c'est ce que Jean-Noël m'a dit. Je pense qu'on va reprendre ça un peu tout à l'heure. Mais bon, il y a cette incompréhension. En attendant, un auditeur de Boulia, son nom c'est Paulin Malili. Oh oui, Malili, comme froid, à Lingala. Paulin qui demande pourquoi est-ce que ces entreprises brassicoles ne peuvent pas faire le suivi de leurs produits jusque sur le marché. S'ils ne changent pas de prix à l'usine, pourquoi alors les distributeurs font cela? En tout cas, M. Paulin s'interroge et sur les mêmes questions que nous nous posons. Lorsque il y a même des gens qui se demandent, est-ce que on a même entendu dans le reportage tout à l'heure qu'on a créé la rareté des produits en vue d'exploiter la loi de l'offre et de la demande, juste pour des fins de gains un peu plus rapides. Est-ce que vous avez eu la même impression parce que vous avez parlé avec certains tenanciers des dépôts ou même certaines personnes qui consomment, enfin vous consommez aussi, je ne vais pas vous demander de nous dire quel produit, mais bon, par rapport à ça.
Mais bien sûr, c'est très visible, hein, et les revendeurs sont très spontanés, hein, quand ils sont abordés pour cette question, ils disent ce qui se passe, et vous l'avez entendu dans le reportage, quelqu'un qui dit vous avez beaucoup de demandes et que vous avez besoin de donner à vos clients de la boisson et que vous voyez un camion de livraison des brasseries qui passe, qu'est-ce que vous faites? Vous lancez directement dessus et vous posez à la personne la question, est-ce que la boisson est finalement arrivée? Elle vous dit oui, il y a de la boisson, mais on ne sait pas encore vous le vendre parce que le prix, on ne sait pas encore combien ça doit coûter. Donc vous voyez que dans quel embarras ces gens se trouvent. Et quand vous passez au quartier maintenant, à la cité, les gens se posent la question, qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons c'est un besoin permanent, quotidien. Nous n'avons pas d'autre choix. Et vous l'avez entendu dans le reportage, quelqu'un disait, « Toruki Kosa, là, et l'autre côté, tout ça, nous besoin. »
Et puis le problème, c'est que ça commence à avoir de l'impact sur les prix d'autres biens de consommation, notamment dans les marchés, parce que c'est ces moments-là qui vont acheter un casier de bière, un casier de sucre pour revendre, c'est pour nourrir les familles, et parfois pour acheter autre chose à exposer au marché, ainsi de suite. Enfin, c'est parfois cyclique pour prendre ici, remettre dans un autre secteur, au marché et là, et doivent réajuster tout ça par rapport au coût de production, comme on dit.
Oui, d'ailleurs, juste en passant, je posais par exemple la question, combien coûte un kilo d'une pieudie?
Oui, dites-nous la réponse.
Et les mamans vendeuses me disent, c'était à 700 le kilo, maintenant c'est à 800 le kilo.
Et pourquoi?
À certains endroits c'était à 650, maintenant c'est 750.
Pourquoi?
Ben, tout simplement parce que, et ils se posent la question, mais le dollar, dollar et mati, et puis tout ce qu'elles sont bas sucrées, et ça pratiquement le double, il y a plus de bandes grosso donc et mati, du soto saani,
voilà,
toujours perdre.
Donc la réaction qu'on a compris tout à l'heure et la demande, c'est que les autorités au niveau du ministère de l'économie ou l'autorité qui est en charge de la fixation des prix, qu'elles nous éclaircissent en tout cas ce qui se passe, ce n'est pas normal. Donna Mandiba, merci beaucoup pour ces éclaircissements, merci aux auditeurs qui ont appelé, merci à ceux qui sont intervenus. On va se retrouver dans quelques instants pour un autre sujet, dans un autre domaine, dans un autre lieu. Du Congo Kinshasa. Nous allons nous rendre à Bukavu pour faire allusion à cette situation qui prévaut dans la ville, parce que la majeure partie de la ville de Bukavu est plongée dans le noir depuis plusieurs jours. Le courant électrique n'est souvent remis que vers 23h ou à minuit pour être coupé encore vers 4h du matin, assez tôt. Cette situation date d'il y a plus de 3 semaines, mais elle s'est accentuée pendant les festivités de fin d'année, la panne des transformateurs à la centrale Rusizi 1 et la baisse du niveau des eaux du lac Kivu seraient à la base de cette situation. Pourtant, il y a la saison des pluies actuellement au Bukavu. Comment les eaux peuvent-elles baisser? Bon, pour en parler, nous avons appelé Astrid Mujinga depuis Bukavu. Astrid, bonjour.
Bonjour Walter.
Alors dites-nous, quelle est la situation actuelle à Bukavu en ce qui concerne l'électricité? Pour commencer, est-ce que cette nuit vous avez eu du courant?
Oui Walter, nous avons eu du courant à partir de 23h et puis le courant est reparti à 4h du matin.
Alors donc la situation est toujours aussi déplorable?
Et effectivement, Walter, la situation est, je dirais, cauchemardesque. Vous savez, depuis plusieurs semaines, des quartiers entiers sont plongés dans le noir. Et pour rappel, les festivités de Noël et de Nouvel An, beaucoup les ont passées dans le noir également. Dans certains quartiers, il n'y a pas ombre de courant depuis tout ce temps. Dans d'autres, comme le mien, donc comme je viens de le dire, on remet le courant à 23h pour le couper à 3h, 4h du matin. Bon, les gens se plaignent de leurs appareils électroménagers qui tombent en panne, faute de courant. Et on voit des gens se déplacer le matin et se diriger dans tous les sens pour chercher où repasser leurs habits. Une fois la nuit tombée, on a comme l'impression de vivre dans un village reculé. Beaucoup ne comprennent pas ce qui se passe réellement et traitent la Société Nationale d'Électricité de tous les noms. Ceci d'autant plus qu'on avait promis à la population par la SNEL que l'arrivée de nouveaux transfos améliorerait de beaucoup cette situation de délestage. Mais ce nouveau transfo acheté en Afrique du Sud est installé il y a à peu près 8 mois. Et à cette occasion, le coordonnateur de la SNEL, M. Mouhetto, promettait qu'il y aurait désormais une amélioration sensible en matière de délestage, raison pour laquelle la population a du mal vraiment à comprendre ce qui se passe. On peut, par exemple, écouter un abonné de la SNEL qui se demande si ça vaut encore la peine de payer les factures de la SNEL.
Ça, c'est un très grand problème qu'on vient de constater ces derniers temps. Nous avons un problème du courant. Tout le monde, tous les abonnés de la SNEL se posent maintenant la question de savoir s'ils paient les factures seulement pour l'utilisation du courant pendant la nuit, rien que pendant la nuit. Mais le problème est multidimensionnel, puisque c'est pendant la nuit que le militaire opère. Plusieurs familles sont victimes de vols des hommes en uniforme. Ils pénètrent dans leurs maisons. Les étudiants, les élèves ont aussi le problème à ce niveau-là, compte tenu de leur occupation étudiantine. Les soirs, on a difficile à étudier sous les bougies, sous les lampes tempêtes. Problème ménager, on ne sait plus comment préparer la nourriture, voyez la conjoncture actuelle, comment acheter le braise, comment acheter le bois, tout ça cause des problèmes au niveau de la famille.
un abonné de la SNEL à Bukavu. Mais dites-nous, Astrid Mujinga, que répondent les responsables de la Société Nationale d'Électricité au sujet de ce délestage qui défavorise en tout cas les consommateurs d'électricité?
En effet, Walter, nous avons été voir effectivement le directeur provincial de la SNEL, Alain Bokele, pour nous enquérir de cette situation. Et suivez plutôt ce qu'il a répondu.
Nous avons un problème de baisse d'eau au niveau du lac Kivu. Et notre énergie étant des sources hydroélectriques, donc nous dépendons de l'eau. Quand le niveau d'eau diminue, cela affecte automatiquement la production. C'est ça d'abord le premier problème. Il y a une réduction de production au niveau de la centrale de Ruzizi 1. Avant la saison sèche, l'année passée, nous produisions 21 MW. Mais avec la baisse sensible du niveau d'eau au niveau du lac Kivu, nous avons réduit la production à 17 MW, ce qui constitue déjà un déficit. Et le deuxième facteur concerne principalement nos abonnés de Bukavu, c'est la panne d'un de nos transformateurs au niveau de la sous-station Ruzizi 1. La panne de cet transformateur prive une grande partie de la ville d'électricité. Et pour essayer quand même de dépanner tant soit peu les quartiers qui ont été affectés, nous recourons au seul transformateur de 10 MVA qui actuellement n'est exploité qu'à 75% de sa puissance, étant donné que nous manquons certains accessoires susceptibles de nous aider à exploiter à 100% cette puissance. Si vous faites la conjugaison de ces deux problèmes, c'est ça qui explique amplement les perturbations que nous connaissons dans la ville de Bukavu en matière d'énergie électrique.
Voilà les réponses de monsieur de l'ingénieur Alain Bokele, directeur provincial de la SNEL. Mais Astrid, est-ce que, parce que vous avez rencontré le numéro 1 provincial de la SNEL, Société Nationale d'Électricité à Bukavu, est-ce que vous ne lui avez pas posé la question s'il y a une solution envisagée à son niveau, au niveau de la SNEL, pour remédier à cette situation?
Oui, Walter, cela ne pouvait pas manquer. En effet, le directeur de la SNEL et ses agents nous ont dit c'est de mener comme ils peuvent car cette situation est autant désagréable pour eux que pour leurs abonnés. Ceci parce que les abonnés ne peuvent pas s'acquitter de leurs factures de consommation aussi longtemps que cette situation demeure à la SNEL. Et la SNEL, de son côté, ne peut pas procéder à des recrutements forcés comme il a l'habitude de le faire aussi longtemps que la situation demeure comme telle. Mais Alain Bokele nous a dit entreprendre quelque chose pour réparer la panne qui s'est produite à la centrale Ruzizi 1. On peut le suivre?
Bien sûr, nous n'avons pas croisé les bras. Dès que l'équipement était tombé en panne, notre service d'intervention s'est mis à l'œuvre. Au moment où je vous parle, nous sommes dans l'étape finale qui constitue à faire l'essorage des enroulements afin que nous puissions mettre l'équipement dans des conditions où il pourra bien fonctionner. Et c'est ça l'étape dans laquelle nous nous trouvons pour le moment. Nous espérons d'ici la fin du mois, nous serons quand même prêts pour remettre l'équipement en service, ce qui va diminuer la fréquence des délestages. Ça ne va pas enrayer, mais diminuer la fréquence des délestages que nous connaissons.
On comprend qu'il y a encore un problème qui persiste pour une solution durable. Si au niveau technique, ils essaient de faire quelque chose, mais ce serait difficile au point de vue purement climatique et naturel, parce que parmi les causes, on a cité aussi la baisse du niveau des eaux du lac Kivu. C'est ce que nous allons essayer de savoir tout à l'heure avec des spécialistes en la matière. Mais pour l'instant, Astrid Mujinga, nous vous remercions de nous avoir fait part de ces informations. Il est vrai que les auditeurs qui nous suivent à Bukavu, certains actuellement sont obligés d'utiliser des petites batteries pour nous écouter à partir des petits postes récepteurs parce qu'il n'y a pas de courant. Mais nous savons que vous aimez beaucoup Okapi. Nous vous en remercions pour ça. Et c'est parce que nous savons que vous êtes là, que vous avez ce problème d'électricité, que nous vous en avons parlé. Grâce à Astrid Mujinga, que nous remercions. Astrid, merci et à très bientôt.
Merci à vous, Walter, et à très bientôt.
À bientôt. Merci de nous écouter à Bukavu dans la bande FM sur 95.3.
Donc, Capi Action, nous restons sur cette question de délestage récurrent à Bukavu. L'énergie électrique, l'électricité est envoyée très tard et coupée très tôt, 4 heures du matin. En tout cas, il faut se réveiller nuitamment pour essayer d'en bénéficier un tant soit peu, pour ne pas se risquer de n'avoir pas bénéficié de cette énergie, parce que c'est que bon, il faut faire la bouille pour les enfants le matin, il faut repasser ses habits, il faut faire beaucoup de choses avec l'énergie électrique. Parmi les raisons évoquées, une panne au niveau de transformateur à la sous-station de la Rosizy, et puis d'autres accessoires qui manquent au niveau du transfo qui alimente actuellement la ville de Bukavu, donc il fonctionne qu'à 75%, qui exploitait 75%, je veux dire. Mais ça, c'est des causes, si vous voulez, physiques, techniques. Mais au point de vue finalement naturel, on dit aussi qu'il y a la baisse des eaux du lac Kivu. Et on va commencer à trouver des réponses par rapport à cette raison purement naturelle. En recevant M. Charles Tamanien Kabobo. Bonjour M. Charles. Bonjour. Vous êtes hydrogéologue, expert en gestion des ressources en eau. Vous êtes membre de la TAC Global Water Partnership Afrique Centrale. La TAC, c'est quoi?
La TAC, c'est le Technical Advisory Committee du Global Water Partnership. En français, c'est le comité directeur du partenariat mondial de l'eau, oui. Section Afrique centrale, dont le siège est basé à Yaoundé, Cameroun.
Voilà. Alors, il y a la baisse des eaux du lac Kivu. Et actuellement, il pleut abondamment dans cette zone. Comment expliquer qu'il y a baisse des eaux?
Oui, cela n'est pas si compliqué pour expliquer. D'abord, vous savez que le Kivu est situé dans la subdivision climatique, ce que nous appelons la zone montagneuse de l'Est. Et la zone montagneuse de l'Est est caractérisée par de grandes précipitations, des précipitations donc abondantes. S'il y a eu baisse au niveau de la Kivu, bon, une des raisons majeures, c'est peut-être les épisodes de sécheresse que nous avons connus la dernière saison pluvieuse. Et s'il y a d'autres causes, il faut des études beaucoup plus approfondies. Mais cela entre dans le cadre des épisodes de sécheresse. Mais cet épisode n'a pas été si grave pour notre pays.
Mais, enfin, on dit que les eaux du lac Kivu ont baissé. C'est des gens qui ne comprennent pas pourquoi les eaux ne devaient pas augmenter. Ça pose mille et une questions auprès des auditeurs. Je vais profiter avant de vous poser l'autre question, à annoncer aux auditeurs que nous avons en ligne depuis Bukavu, l'ingénieur Bokele. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Voilà, vous êtes directeur provincial de la SNEL à Bukavu, gestion studio, le chef de division. Un chef de division à Metelsat, Monsieur Charles Tanalien, vous êtes division provinciale de Kinshasa?
Non, je ne suis pas
gérant
du chef de division, j'ai en charge les ressources en eau.
Voilà, il a en charge les ressources en eau. On parle de cette situation de délestage qui prévaut à Bukavu. Monsieur Bokele, nous avons entendu quelques explications dans la partie avec ma consoeur Astrid depuis Bukavu. Mais la question que je vous pose, où est-ce que vous en êtes avec l'évolution des réparations de la panne au niveau de transformateur à la sous-station de Rosizy 1?
Bon, pour le moment, nous avons déjà terminé avec les travaux de réparation. Les travaux de reconditionnement du transformateur sont en cours. Après les premières mesures que nous avons effectuées, ça promet, je crois que comme nous avons promis avant la fin du mois de janvier, on pourra déjà remettre l'équipement en service.
Vous ne pensez pas que vers la fin du mois de janvier, ce sera trop loin pour les abonnés de la SNEL qui souffrent beaucoup de ces délestages?
Bon, écoutez, c'est un travail technique. Hein. Ce n'est pas que nous ne voulons pas remettre le courant rapidement. C'est ça le souhait de tout le monde. Mais nous devons quand même voir si l'équipement est quand même en aide de donner satisfaction. Nous ne pouvons pas passer, nous sommes pressés par-ci par-là, à remettre l'équipement au moment où les conditions ne sont pas réunies. Mais par mesure de prudence, nous pouvons vous dire que vers la fin du mois, nous pourrons remettre déjà l'équipement en service.
Une question de précision, qui est-ce qui a pris en charge les réparations de la panne au niveau du transformateur de la sous-station Rouzizi 1? Est-ce que c'est la SNEL sud Kivu ou bien c'est venu d'ailleurs?
Non, c'est la SNEL sud Kivu, bien sûr. C'est avec fonds propres que nous avons fait des réparations.
L'autre question, nous vous avons entendu dire que le transfo qui aujourd'hui alimente Bukavu est exploité à 75% parce qu'il vous manque quelques accessoires pour que ce soit exploité à 100%. Quels sont les accessoires qui vous manquent?
Bon, ce sont des transformateurs d'intensité et ainsi que les relais de protection qui devaient venir. Mais ce qui nous handicape pour le moment, ce sont surtout des transformateurs d'intensité de 1000 bars 5 ampères du côté 6006 et des 400 bars 1 ampère du côté 15000 volts. Quand on a commandé les transformateurs de 10 MVA, il fallait aussi que ces accessoires puissent nous arriver parce que les accessoires qui sont au niveau de nos installations ne peuvent pas nous permettre d'exploiter à 100% la puissance des 10 MVA. Parce que l'équipement qui était avarié, qui avait motivé que nous puissions passer commande du transport de 10 MVA, était un équipement de 5,2 MVA, à peu près la moitié de la charge. Donc les TI en place sont des TI de 500 bar 5, alors que nous avons besoin des TI de 1000 bar 5. Il n'y a pas moyen d'utiliser complètement la puissance disponible.
Où est-ce que vous espérez trouver les pièces qu'il vous faut pour remédier à cette situation?
Bon, on est en pour parler avec les fournisseurs parce que nous avions déjà payé, acheté ces accessoires. En principe, ça devait nous parvenir ensemble avec l'équipement, mais ça a connu des problèmes. Nous continuons à parler avec le fournisseur. Nous espérons bien qu'il va finir par nous les expédier. Mais nous ne croisons pas non plus les bras. Nous essayons de voir avec nos partenaires du réseau interconnecté pour voir si sur place ici nous pouvons déjà avoir ces éléments.
Voilà, deux questions des deux auditeurs différents, presque en même temps, sur le même problème, dans le même angle. D'abord, Victorien Oumande de Goma, et ensuite Jérôme Kabongoli de Goma, toujours. D'abord, Victorien Oumande qui pose la question suivante. Pourquoi la centrale de Rouzizi sert d'abord les pays voisins à 100% que nous-mêmes, en République démocratique du Congo? Cela n'est pas juste, écrit-il. Normalement, on doit en aucun cas manquer d'électricité. Que répondez-vous à ça?
Bon, écoutez, ça c'est une manière qui n'est pas correcte d'appréhender les choses parce que nous avons signé des contrats avec les sociétés sœurs et ces contrats ne datent pas d'aujourd'hui, ça date de longtemps. Avec la régie des eaux Burundi, c'est depuis les années 60 là-bas qu'on a signé les contrats. Avec Electrogaz aussi, il y a longtemps que nous travaillons ensemble. Ce n'est pas que parce que nous connaissons des problèmes que nous jugeons passagers qu'aujourd'hui on doit commencer à remettre en cause des accords et des engagements que nous avons déjà pris. Donc ce sont des contrats que nous devons respecter parce que si nous ne respectons pas ça, il y a des sanctions qui sont prévues dans le cadre de ces contrats-là. Donc nous ne pouvons pas nous exposer dans ce genre de choses et nous sommes contraints de les respecter.
Voilà, la question de Jérôme Kabongoli de Goma, et puis après je vais revenir à l'ingénieur hydrogéologue qui est avec moi en studio. Jérôme Kabongoli constate, selon lui, qui est à Goma d'ailleurs, que le Rwanda, le Burundi et le Congo ont la même source du courant électrique dans cette partie du pays. Mais pourquoi les deux autres pays n'ont pas de coupures comme cela se passe dans la partie congolaise?
En ce qui concerne le problème de délestage rwandais au Burundi, je ne crois pas, ça ce sont des fausses informations. Le problème de déficit énergétique dans la sous-région des Grands Lacs est connu. Même si vous allez aujourd'hui, que ce soit au Rwanda et au Burundi, vous trouverez qu'on procède toujours au délestage. Malgré que ces pays ont leurs propres centrales hydroélectriques. Il y en a qui ont quelques centrales thermiques. Donc, comme nous vous avons déjà dit, il se pose un problème de baisse des niveaux d'eau sensible au niveau des rivières et des lacs, du lac Kivu. Et c'est ça qui fait que les centrales, que ce soit au Burundi, que ce soit au Rwanda, ainsi que ici chez nous, hein, nous avons des problèmes de production. Bon, quant à dire que au niveau de ces pays-là, on ne fait pas de délestage, ça, ce n'est pas vrai. Tout auditeur sincère peut se rendre dans ces pays-là et trouvera que le délestage se fait.
Voilà, monsieur Bokele, je rappelle que vous êtes directeur provincial à SNEL pour le Sud Kivu. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions et souhaite que d'ici là, vous trouviez des solutions à l'intention de vos abonnés. Bonne journée à Bukavu.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir. Alors, je reviens à vous, Charles Tanania Kabobo, dans la dernière partie de sa réponse. L'ingénieur Bokele persiste que, au-delà des causes purement techniques, il y a aussi cette baisse sensible du niveau des eaux au niveau des rivières, c'est la rivière Ruzizi notamment, et du lac Kivu. La question que je vous pose, qu'est-ce qui peut justifier une baisse d'eau dans les cours d'eau?
La première chose, c'est le changement climatique. Mais ici, nous ne sommes pas à une phase de grand impact de changement climatique. Mm-hmm. S'il y a une petite sécheresse, s'il n'y a pas de précipitations, il en va de soi que les cours d'eau ne seront pas alimentés par les eaux. Mm-hmm. Et il y a des séchements du lac Kivu. Je vous ai dit que nous venons, n'oubliez pas que nous venons d'une période sèche. Mm-hmm. Nous entrons maintenant dans une période de pluies abondantes. Et pour qu'il y ait pour que la hauteur d'eau revienne, il faut un certain temps de concentration, ce que nous appelons en termes techniques un temps de concentration des eaux. C'est-à-dire tout le bassin versant du lac ou du cours d'eau draine leurs différentes eaux jusqu'à l'exutoire soit du lac, soit du cours d'eau.
Donc ça veut dire que d'ici là, comme les pluies ont commencé, parce que d'ailleurs ces pluies ont été meurtrières pour la province du Sud Kivu, il y a eu mort d'hommes, il y a eu des milliers de maisons emportées et tout. Est-ce que vous voulez nous dire que nous pouvons espérer que dans les semaines qui suivent, les eaux du lac Kivu vont remonter?
Si nous nous en tenons aux prévisions climatiques saisonnières, aux prévisions saisonnières qui ont été faites par la Metelsat, c'est que le grand public ne fait pas attention à ce que la Metelsat donne. La Metelsat avait prévu de pluies abondantes. Et ces pluies de plus abondantes, lorsqu'elles vont venir pour cette période de janvier, depuis octobre jusqu'à mars, il y aura des précipitations. Avec ces précipitations, vous aurez la remontée des eaux. Mais la grande question qui se pose ici, c'est la question que nous sommes en train de chercher à vulgariser pour le moment, c'est la question de gestion intégrée des ressources en eau. Ça, c'est un point très fondamental, puisque qui parle de gestion intégrée des ressources en eau, entend par là qu'il faut tenir compte de la prévision climatique, de la prévision saisonnière, de l'occupation des terres, puisqu'il y a des causes, nous allons y arriver peut-être tout au long de notre échange. L'occupation des terres, il y a aussi les différentes utilisations des ressources en eau. Aujourd'hui, c'est un des points les plus importants. Rappelez-vous, parmi les objectifs du millénaire, il y a que l'eau soit accessible
à la majorité.
Et qu'il y a ce que nous appelons les 10 ou 11 principes, parmi lesquels il y a l'eau pour l'énergie, l'eau pour l'agriculture, l'eau pour l'industrie, l'eau pour les villes, etc.
Et si nous parlons du cas de l'eau pour l'énergie, il va nous rester juste quelques trentaines de secondes avant que nous passions au flash de formation. Mais dites-nous, l'eau pour l'énergie, comment est-ce qu'elle doit être canalisée? Est-ce que nous en avons d'abord suffisamment?
Nous avons en République démocratique du Congo suffisamment d'eau, mais qu'il faut bien repartir maintenant. Quelle quantité pour l'énergie? Et quelle quantité pour d'autres besoins?
Nous allons en parler tout à l'heure. Vous restez avec nous en studio. Je rappelle aux auditeurs que nous sommes en train d'essayer de comprendre pourquoi les eaux baissent et que ça diminue la capacité de, si vous voulez, des productions de l'énergie à partir de l'eau. C'était de Bukavu dont nous parlions de ce sujet.
Okapi, le Congo à l'écoute.
Alors, je reviens à vous, ingénieur Charles Tamania Kabobo. Vous nous disiez quelque chose d'assez intéressant, que nous avons suffisamment d'eau, mais il se pose un problème de répartition. Parce que nous en parlions en fonction de ces problèmes de délestage que l'on connaît au niveau du Sud Kivu. On a le même problème, il y a des villes, des cités qui n'ont pas d'électricité alors qu'elles sont drainées par des cours d'eau qui peuvent être exploités pour des besoins énergétiques. De toute la quantité des eaux que nous avons en République démocratique du Congo, quelle est la part que l'on peut utiliser pour des besoins énergétiques?
Je ne répondrai pas à cette question pour la simple raison, oui, que la République démocratique du Congo doit faire maintenant un travail d'évaluer ses ressources en eau et de donner la répartition.
Donc nous ne savons même pas quelle quantité d'eau nous disposons.
Objectivement, non. Objectivement, non. C'est un des grands travaux qui doivent être réalisés. Et ça, peut-être, ce n'est pas la question d'aujourd'hui. Ça doit entrer dans le processus de gestion, même intégrée, de nos ressources en eau, qui doivent aboutir à un plan, qui doivent aboutir à une politique nationale de l'eau, puisque dans la politique nationale de l'eau, on va définir quelle quantité pour l'énergie, quelle quantité pour l'agriculture, etc.
Ce qu'il faut dire actuellement, et ça je le dis sans crainte d'être contredit, que les prochains enjeux mondiaux seront autour notamment des ressources en eau, parce que les réserves importantes, il y en a dans la forêt amazonienne, dans la forêt du Canada, et ici, dans l'Afrique centrale, dans la cuvette centrale, dont la RDC a les trois quarts. Donc, autant les trois poules majeures où on a des ressources en eau, mais c'est quand même aberrant qu'on ne sache pas aujourd'hui encore évaluer ce que nous avons en termes des ressources d'eau.
C'est ça le grand paradoxe. Il y a des technicités qui existent pour faire ce travail, mais il faut qu'il y ait un programme national, il faut qu'il y ait une politique nationale qui définit qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à l'évaluation des ressources en eau. Vous avez évoqué que l'eau, c'est l'un des grands enjeux. Oui, je dirais un des très grands enjeux, et la République démocratique du Congo doit prendre conscience de ça. Comme nous parlons ici de l'énergie, non seulement nous avons beaucoup d'eau, mais nous avons des grands potentiels en termes d'hydroélectricité, partout à travers toute la République.
Mais pourquoi c'est pas exploité?
Justement, la question revient. Pourquoi n'avons-nous pas une politique de l'eau, notamment qui va parler pourquoi est-ce que nous n'avons pas une politique de l'eau qui parle de l'hydroélectricité?
Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que vous...
Dès maintenant, nous sommes dans un processus de... Vous m'avez présenté que j'étais membre du CAFTAC, le Global Water Partnership.
Tout à fait.
Oui. Une des missions du Global Water Partnership, c'est de pousser les États à établir des plans nationaux de gestion intégrée des ressources en eau. Et dans ces plans nationaux de gestion intégrée des ressources en eau, tous les aspects seront pris en compte. Et je suis très content de vous annoncer qu'au mois de novembre dernier, la République démocratique du Congo aujourd'hui a ce que nous appelons un Country-Water Partnership, un partenariat national de l'eau. Mais là, il faut donner des moyens à ces partenariats nationaux de l'eau pour qu'il arrive à mettre déjà le mécanisme qui va amener le gouvernement à définir et sa politique de l'eau et son code de l'eau et tout le processus qui entre dans la gestion intégrée des ressources en eau.
Je vais conclure pour aujourd'hui parce que j'espère que vous allez revenir. Monsieur ingénieur Charles Tamania Kabobo, si je disais que les Congolais de la République démocratique du Congo crient soif alors qu'ils ont les pieds dans l'eau, est-ce que je me trompe?
Vous ne vous trompez pas, et il dit qu'il est dans l'obscurité alors qu'il a un grand potentiel. Il dit qu'il a faim alors que vous vous rendez compte. Nous avons 10 millions d'hectares de terres irrigables. C'est trop pour toute l'Afrique.
À suivre alors.
Merci.
J'espère vous retrouver très prochainement. Okay. Particulièrement, on va mettre le cap sur nos auditeurs qui nous écoutent dans la bande FM 92.9. Nous sommes à Butembo pour parler d'une association qui s'appelle Fraternité Internationale Les Copains. Cette association a vu le jour à Butembo. Nous sommes au nord Kivu, à au moins 300 km au nord-est de Goma. Objectif, entraide mutuelle, octroi des bourses aux écoliers et élèves qui se seraient distingués à la fin du cycle, primaire ou secondaire. Cette initiative, qui est louable par ailleurs, risque de s'étouffer dans son œuf. En effet, tout le monde n'est malheureusement pas prêt à garnir la caisse d'entraide. Pour en parler, en ligne depuis Butembo, Étienne Mouindo, bonjour.
Oui, bonjour Walter.
Pouvez-vous nous préciser la date de création et les objectifs de cette association Fraternité Internationale Les Copains ?
Oui, ben, Walter, l'Afrique est née, ça fait 31 décembre 1980, c'est-à-dire qu'elle est vieille de 24 ans. Eh bien, ses objectifs les premiers sont l'entraide mutuelle, comme vous l'avez souligné dans l'introduction, mais aussi la promotion des membres dans le domaine des affaires. Il faut dire qu'avec le temps, les objectifs de cette association ont évolué. C'est ainsi que, par exemple, les membres de l'Afrique ou Fédération internationale des copains offrent aujourd'hui des bourses d'études aux écoliers élèves qui se distinguent à la fin de leur cycle du primaire ou du secondaire.
Qui sont les fondateurs? Je ne veux pas parler des PF, président fondateur, non, ça fait allusion à une certaine époque, mais enfin, c'est vrai, toutes choses étant égales par ailleurs. Qui sont les fondateurs de cette association Fraternité Internationale, les copains?
Oui, bien, l'Afrique Walter a été créée par 16 personnes, et mieux 16 adolescents à l'époque, qui venaient prématurément d'abandonner leurs études.
Est-ce que déjà à l'époque, à cette période, ils avaient décidé de lancer l'opération Bourse d'études parmi leurs actions?
Et donc, comme je l'ai souligné au début là, les membres de la Fédération internationale des copains, ce sont d'abord la CEDA des commerces, et l'opération Bourse d'études est venue après. L'objectif donc d'aider les enfants intelligents ici, c'est l'objectif, c'est d'aider les enfants ici, et les enfants d'abord intelligents. Il faut d'abord être intelligent, c'est-à-dire se distinguer, et à la fin donc du cycle primaire ou secondaire, des enfants donc ici des familles pauvres. Et on les aide donc à pouvoir poursuivre les études secondaires et supérieures ou universitaires.
Mais Étienne Mouindo, vous nous avez dit qu'actuellement, c'est comme si l'association Fraternité Internationale des Copains battrait de l'aile. Il y a des craintes que certains objectifs ne soient pas atteints. Quels sont les vrais problèmes actuels?
Oui, c'est vrai que l'Afrique bat de l'air, comme vous l'avez dit, mais les membres quand même sont confiants, ils se disent qu'avec la volonté, on peut trouver de l'argent, avec la volonté, on peut tout. Et bien, même malgré cela, en fait, il faut souligner que l'Afrique connaît des problèmes, il y a certains membres qui ne sont pas en règle de cotisation, et ça fait du souci, surtout au président actuel de cette association, qui est M. Alexis Kavota, mais aussi à beaucoup de bénéficiaires. Il faut dire que chaque année que cette fédération offre une bourse, 3 aux élèves, aux écoliers, donc qui terminent leur cycle primaire, et 3 aux élèves du secondaire. Et cela chaque année.
Étienne Mouindo, est-ce que vous avez vous-même rencontré personnellement ne fût-ce qu'un seul bénéficiaire de la bourse octroyée par la Fédération internationale, la Fraternité internationale des copains? C'est ma dernière question.
Oui, c'est vrai, j'ai rencontré un qui étudie ici à l'université catholique du Grabel, s'appelle Jean Paloukou. Il m'a dit, en tout cas, qu'il est très content depuis qu'il a commencé, cela fait 3 ans, et il poursuit normalement ses études à l'université catholique du Grabel, donc La Place, et il n'a jamais échoué, d'ailleurs. Il avait terminé avec 75%, c'est l'humanité, et il continue à bénéficier donc de la bourse de cette association Fédération internationale des copains.
Étienne Mouindo, merci beaucoup pour toutes ces informations. Bonne journée à Boutembo, et surtout essayez de nous mettre en contact avec un des bénéficiaires boursiers de cette association.
Oui, merci Walter, merci à tous les auditeurs de Radio Capi.
Merci, à bientôt. Nous sommes en train de parler de cette initiative qui s'appelle Fraternité Internationale des Copains. Plusieurs objectifs pour cette association qui existe depuis 24 ans. Elle entre dans sa 25e année aujourd'hui. Pour faire le point des objectifs, des projets, des volontés à mieux faire, nous avons en direct depuis Boutembo, Monsieur Alexis Kavota Phoenix. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Alexis Kavota, vous êtes président de l'association Fraternité Internationale des Copains. Dites-nous, les projets que vous avez pris, il y a parmi celui-là, celui d'accorder des bourses à certains étudiants. Combien de bourses ont été octroyées cette année, scolaire et ou académique?
Merci beaucoup, M. Walter. Et actuellement, nous avons 4 étudiants et 15 élèves.
Alors, oui, je vous laisse parler.
Oui, nous avons 3 étudiants à l'ICG du Boutembo. Et il y a un à l'université de Lukanga.
Mais quels ont été les critères de sélection de ces bénéficiaires des bourses?
Les bénéficiaires des bourses, normalement, chaque année, on prend 3. qui vient de l'école primaire pour le secondaire et 3 qui viennent de secondaire pour l'université. Il y a le premier de la territoire de Beni, il y a aussi le premier de la territoire de Lubero, et il y a aussi l'enfant qui a eu plus de poids que les autres enfants des membres de la Fraternité internationale des copains.
Mais aujourd'hui, vous dites 3 de l'école primaire et 3 de l'école secondaire, c'est-à-dire qui passent vers l'université, mais ils ne sont pas 6 cette année, ils sont plutôt 4.
Effectivement, compte tenu à la période où nous avons commencé à 2000, et à 2000, nous avons délibéré qu'il faudra d'abord commencer avec les enfants qui viennent du primaire pour le secondaire. Et avec l'université, nous avons commencé à 2002. Nous avons d'autres difficultés qui nous empêchent de prendre les autres puisqu'on attend la liste des 10 premiers au niveau des inspections. Et les inspections font des retards pour nous donner des listes.
Quelles sont les autres difficultés en dehors de celles dues au retard de la disposition des listes des meilleurs candidats?
Moi, normalement, nous n'avons pas beaucoup de difficultés, seulement surtout quand, par exemple, un membre a un enfant et que lui n'a pas contribué sur l'opération bourse, on ne peut pas prendre son enfant.
Oui, alors vous avez dit que parmi les difficultés, il peut s'avérer que un des membres n'ait pas contribué. Qu'est-ce qui peut advenir après?
Puisque nous prenons chaque année, on prend quand même un enfant des membres qui part à l'université et l'autre qui entre en secondaire. Et nous signons un pacte entre nous les membres qu'on ne peut pas prendre l'enfant des membres s'il n'est pas à règle vis-à-vis de notre statut.
Mais et pendant combien d'années est-ce que vous continuez à assister les bénéficiaires de l'opération bourse?
On prend l'enfant au cycle.
Jusqu'à la fin du cycle. Et s'il arrive que pendant le cycle, ce qui n'est pas souhaitable, mais ça peut arriver, s'il arrive qu'il ne satisfait pas, qu'il redouble une promotion, qu'il redouble une classe, qu'est-ce qui arrive après?
Nous avons dit que chaque année, l'enfant n'était pas distingué. Chaque année, il suffit qu'il réussisse. Et nous avons eu la chance que tous nos enfants ils réussissent. Ils ont fait de progresser très bien, mais nous avons dit que si l'enfant échoue et le refait l'année, et là, on va nous allons nous. Si les parents ont le moyen, ils peuvent peut-être supporter l'année, et les copains vont supporter, mais l'enfant va signer sans.
Aïe, 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 vous êtes en train de dire des choses assez intéressantes, mais la liaison téléphonique nous fait vraiment, vraiment défaut. Est-ce que vous pouvez revenir sur la situation d'un enfant qui échoue? Qu'est-ce qui se passe après? Si la liaison nous le permet, surtout ne bougez pas trop, restez stand-by.
Si l'enfant échoue, on va éviter ses parents. Les sensibiliser. Si les parents sont capables de supporter, ils vont supporter. Et si on voit que les parents ne sont pas capables de supporter cette année-là, on va faire signer le centre de crédit qu'ils vont rembourser peut-être après les études.
Alors, Alexis Gavota, on a des petits problèmes de liaison téléphonique. L'autre question qui concerne votre association, c'est que vous vous encouragez mutuellement pour vous relancer un peu plus dans les affaires, dans le monde des affaires économiques. Comment ça marche, ce volet de l'objectif de votre association?
Nos objectifs, ça marche très bien. Nous avons touché l'opération pour toucher aussi les gens qui sont à l'extérieur du club. Bon, à l'intérieur du club, ça marche très bien. Puisque vous m'avez demandé de parler seulement du bourse, c'est là où je parlais du bourse. Mais il y a quand même d'autres réalisations qu'on a déjà faites au niveau du club.
Mais oui, dites-nous quelles sont ces réalisations. On a commencé d'abord par les bourses, ensuite on peut parler maintenant de ce qui se passe à l'intérieur du club. Qu'est-ce que vous faites concrètement?
Nous avons ce que nous appelons PROCO, c'est la caisse de promotion des copains. Et comme tu sais que notre milieu est dominé par... J'essaie de lancer chaque année ou chaque trimestre, on lance un copain dans les enfers du domaine choisi par lui-même. Et sans ça réussir, sans problème, et il y a une autre opération que nous appelons Retourne. Par exemple, cette année, nous avons lancé l'opération Motofit, que chaque copain, nous voulons que chaque copain cette année achète une moto.
Et qu'est-ce qu'il va faire de cette moto? Que chaque copain achète une moto. Quel va être l'impact de la moto pour chacun des membres par rapport aux affaires, aux opérations économiques que vous faites?
Tu sais que dans notre milieu maintenant, et la moto est vraiment très importante dans notre ville, puisqu'il n'y a pas de taxi voiture, il n'y a même pas de taxi bus, il n'y a que les motos qui essaient d'aider les gens. Et tout en faisant ce travail-là, nous pensons que ça va aider la population et à aider nos membres aussi pour survivre parvenir à payer la cotisation.
Voilà. Alexis Kabota, nous avons appris quelque chose d'assez intéressant. Je vous remercie d'avoir été disponible pour répondre à nos questions. Malheureusement, la liaison téléphonique vraiment nous a fait défaut. Prochainement, si vous devez intervenir, nous vous conseillerons d'aller directement à nos bureaux, au bureau de Radio Okapi à Butembo. Là, on aura des meilleures conditions téléphoniques au lieu de se fier au téléphone mobile. Merci encore une fois et surtout, plein succès dans la réalisation de vos objectifs. J'en profite pour vous souhaiter les meilleurs vœux pour 2005.
Merci beaucoup à vous autres.
Merci, au revoir Alexis Kabota. Dernier virage pour Okapi Action, après Butembo, remonte carrément par la route ou par les airs, Willem? À toi le choix, par les airs, par les ondes. Jusque Bounia, c'est pour constater que de nombreux enfants passent la nuit dans les rues, à la Belle Étoile ou encore devant des magasins. Paradoxal, lorsque l'on sait que beaucoup d'ONG, organisations non gouvernementales de protection de l'enfance interviennent dans le chef-lieu de l'Ituri. Est-ce par manque d'encadrement? Est-ce parce que ces ONG qui s'occupent des droits de l'enfant manquent des moyens pour le faire? On va tenter d'y répondre avec notre confrère Rigobert Yumandwani Walumba. Bonjour.
Bonjour Walter.
Rigobert.
Bonjour tout le monde.
Voilà. Comment expliquez-vous le phénomène enfant de rue à Bounia, alors que l'on sait qu'il y a une bonne dizaine d'ONG qui interviennent dans le domaine de la protection de l'enfance?
Oui, d'abord, je vous fais la description du phénomène ici, Walter. Dans les rues de Bounia, il s'observe un afflux d'enfants de la rue qu'on appelle Chegué. Et pourtant, comme vous venez de le dire, il existe une dizaine de structures qui s'occupent de la protection de l'enfance. Mais plusieurs de ces ONG ne bénéficient d'aucun appui du programme des Nations Unies pour le développement tenu dans sigle. Et c'est le cas de l'ONG Amis de l'Évangile, dont les origines remontent en 2002. Et actuellement, cette association encadre seulement une trentaine d'enfants venus de Bounia et de ses environs, et dont l'âge varie entre 6 et 16 ans. Certains de ces enfants, les plus âgés, apprennent la mécanique et la menuiserie. D'autres, plus jeunes, étudient dans les écoles primaires de la place. C'est surtout les écoles primaires Aéro et Nyakasanza, garçons et filles. Walter.
Voilà, vous nous parlez de cette ONG qui s'appelle Amis de l'Évangile, que cette ONG encadre une trentaine d'enfants de la rue. Comment cette ONG a-t-elle fait pour sélectionner seulement 30 et laisser les autres dans la rue?
Walter, la question est pertinente. Nous avons nous-mêmes posé cette question au coordonnateur du centre d'Amis de l'Évangile, M. Richard Doumani. Voici sa réponse.
D'abord, le premier critère, c'est qu'il fallait qu'ils se retrouvent au grand marché. Parce qu'avant la guerre, c'était pratiquement le marché qui était leur milieu par excellence de vivre. C'est dommage, cela est arrivé. Mais avec les difficultés de l'Ituri ici, le nombre s'est revu à la hausse. Et donc, comme critère, je vous le dirais, c'était d'abord que l'enfant puisse se retrouver au grand marché, en train de vendre soit des sachets ou d'accompagner certaines personnes qui ne sont peut-être pas suffisamment honnêtes dans la société, mais aussi les enfants filles et d'autres enfants garçons étaient là, utilisés par les bouchers de grands marchés de Bounia, mais aussi utilisés par les mamans.
Amis de l'Évangile encadrent exactement 37 enfants et sans appui direct d'après M. Doumani.
Ben voilà, vous dites sans appui direct, comment cette ONG fait-elle pour encadrer ses enfants sans appui?
La politique de Amis de l'Évangile étant de préparer ses enfants à se prendre en charge, Amis de l'Évangile les initie aux travaux des champs, utilisant ainsi leur propre production, et en même temps, Amis de l'Évangile initie ses enfants à une formation professionnelle, mais en collaboration avec l'ONG MEDER. Voilà pourquoi nous avons dit sans appui direct, mais ils sont en collaboration avec MEDER. Écoutons le coordonnateur du centre.
Et nous donnons d'abord la priorité pour l'agriculture, parce que leur problème prioritaire, c'est d'abord la nourriture. Et étant donné que c'est la protection de l'enfance, et surtout les enfants en situation particulièrement difficile, eh bien, c'est d'abord la nourriture. Ils doivent faire un peu les champs, mais aussi, à part les champs, et ils doivent aller aussi à l'école, dans les lieux d'apprentissage des métiers, etc. Bien, on vient de terminer la formation dans le cadre des enfants, et comment travailler avec les enfants traumatisés, les enfants victimes de violences, etc., en collaboration avec MEDER. Et avec MEDER, ça marche déjà très bien. Et nous-mêmes, nous sommes déjà suffisamment formés dans ce domaine par MEDER. Nous venons de terminer la formation et nous sommes sur terrain en train de mettre en pratique les enseignements reçus.
Voilà, on vient d'entendre le coordonnateur du centre nous dire qu'il travaille en collaboration avec l'ONG MEDER. Rigobert, vous qui êtes actuellement à Bounia, est-ce que vous avez noté cette seule collaboration avec MEDER ou bien cette ONG s'ouvre à d'autres partenaires aussi?
Walter, la question est bien posée. Je vous signale également que cette association travaille en synergie avec les pères missionnaires d'Afrique, appelés pères blancs. Je vous laisse écouter le témoignage toujours du coordonnateur du centre, M. Domani.
Collaborer avec les missionnaires d'Afrique, ils sont aussi, nous sommes là en train de travailler dans la main, mais ils nous ont parrainés pendant pratiquement 2 ans. Nous osons croire que les autres humanitaires, étant donné que nous avons commencé avec eux, ils connaissent nos capacités de gestion financière et que les autres humanitaires peuvent nous voir avec les yeux d'amour pour que nous puissions justement achever ces nobles tâches pour la promotion et la protection de l'enfance et surtout pour la promotion de la justice et de la paix en Ituri. Tel est le but d'ailleurs de l'association, les objectifs de l'association.
Mais voilà, jusqu'à présent, Rigobert Yuma, tous ceux qui parlent au sujet de cette question d'encadrement d'enfants de la rue ne sont pas des enfants, c'est des personnes adultes qui ne sont pas dans la rue non plus. Est-ce que vous n'avez pas réussi à rencontrer quelques enfants de la rue, enfin ceux qui ont été repêchés parmi la trentaine, vous nous avez dit exactement 37. Qu'est-ce qu'ils disent eux-mêmes de la façon dont ils sont encadrés? Est-ce qu'ils ont espoir à l'avenir?
Effectivement, Walter, nous avons contacté ces enfants. Certains disent oui, ça va, et d'autres ne sont pas chantés par l'encadrement qu'ils reçoivent et préfèrent plutôt errer à travers toute la ville en quête d'argent. Ce sont surtout les plus âgés, ceux-là. Je vous propose la déclaration d'un d'eux.
Passez-moi, si quand on est dans un centre, il ne faut pas occuper si nous sommes là. Franchement, quand nous ne sommes pas qu'on part, la traité si tu as coulé, alors qu'il ne sommes pas qu'on part. Si on a vu face du moins, il n'y a pas d'attaque spéciale ville. Nous sommes la peine d'un, mais quand on a un ballon, on s'affra, à ta 10 francs par jour, on a ta 2 francs, à ta 3 francs, on a bien la musique, on a bon temps, on a pour le magasin, on a bien la musique, on a fait qui ça va, il a 6 francs, on a ta 2 francs, 3 francs. C'est pour ça que tu ne pas ta ligne, puis tu ne fais pas d'appareil, tu ne fais pas d'appareil.
Voilà, s'il faut traduire rapidement, pour ceux qui n'ont pas compris le Swahili, cet enfant vient de dire qu'au centre, il reçoit un peu de nourriture, mais pas de l'argent, et que donc lui préfère quitter le centre pour aller sur la rue mendier ou se faire porteur de certaines petites charges, et qu'il peut aussi gagner 100 francs, 200 ou 300 francs, et peut-être le soir, il peut rentrer au centre. J'espère qu'on a dit la même chose que cet enfant Rigobert, parce que c'est vous qui l'avez rencontré.
Oui, exactement, c'est ce qu'il a dit, Walter.
Mais on sait très bien aussi, Rigobert Yumandouani, que dans le lot des enfants à situation sociale particulièrement difficile, dont ceux-là qu'on récupère dans les rues, il y en a soit qui ont des parents, soit qui sont orphelins. Est-ce que la catégorie de cette dizaine, 37, qui sont encadrés par cette ONG, Amis de l'Évangile, est-ce qu'ils ont des parents à Bounia ou ils n'ont pas leurs parents?
Oui, Walter, c'est déplorable. Il y a ceux-là qui sont délaissés par leurs parents, mais ne sont pas nombreux. Et c'est pour cette raison que, disons, c'est bien d'aider les enfants pour mettre fin au phénomène Chégué. Mais il faut aussi que les parents ne puissent pas démissionner de leurs responsabilités, qu'ils puissent bien jouer le rôle des parents. Voilà, Walter.
Dossier à suivre, c'est ouvert, le phénomène se vit partout. des réactions, des suggestions, n'hésitez pas à partager vos expériences. Appelez au 081-890-68-90. Arlette Mbouyi prendra vos points de vue et on en parlera en direct maintenant. Rigobert Yuma, merci beaucoup pour nous avoir fait rencontrer ne serait-ce qu'un enfant et surtout ces responsables du centre qui essaient de leur donner une seconde chance dans leur vie. Bonne journée.
À Bounia. Bonne journée également et à vous et à tous nos auditeurs.
Merci, je rappelle, je précise que vous étiez en direct de Bounia à Guitou. Alors, nous allons rentrer un peu plus en profondeur dans cette question du phénomène enfant de rue que l'on remarque à Bounia. En effet, de nombreux enfants passent la nuit dans les rues, à la Belle Étoile ou encore devant des magasins. Paradoxal lorsque l'on sait qu'il y a une dizaine d'ONG de protection de l'enfance qui interviennent dans le chef-lieu du district de Litori. Ce qu'on vient d'apprendre, c'est que pour la plupart d'ONG locales, elles n'ont pas d'appui direct à partir des bailleurs de fonds. Et c'est ce qu'on a appris des réactions qui fusent de partout, notamment celle de Monsieur Délion Mbouyi, qui vient de nous appeler de Kananga. Son avis sur le problème des enfants de la rue, c'est que les ONG devraient donner ou apprendre du travail aux enfants afin de leur apprendre à s'autogérer. C'est mieux que de leur donner à manger et à boire ou encore des habits. Apprendre quelqu'un à pêcher, écrit Délion Mbouyi, vaut mieux que lui donner du poisson pour que demain il la demande à nouveau. Voilà la réflexion de Délion Mbouyi de Kananga par rapport à cette question. C'est Richard Doumani que nous avons en direct de Bounia. Monsieur Richard, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Je suis Walter Molondi. Alors, vous êtes, vous, coordonnateur de l'ONG Les Amis de l'Évangile. Vous opérez à Bounia. Vous avez une trentaine d'enfants, 37 pour être plus précis. Quel est le programme que vous avez, que vous mettez en exécution en faveur des 37 enfants que vous encadrez?
Ok, le programme, c'est que on voudrait d'abord que l'enfant soit responsable de lui-même, mais aussi responsable pour sa vie future. C'est pour cette raison que les projets enfants de la rue, la réinsertion dans la vie socio-professionnelle des enfants de la rue, des amis de l'Évangile, eh bien, ont ciblé principalement trois secteurs de formation, notamment la menuiserie, la mécanique, mais aussi ceux-là qui sont à l'âge scolaire, soit envoyés à l'école primaire, soit Benyakasanza, garçons et filles aussi, et à l'école primaire de l'aéroport et où l'UNICEF a créé aussi une école qui est proche du siège social de l'association. Oui.
Mmh. Nous avons entendu tout à l'heure un enfant se plaindre, dire que dans les centres, on leur donne principalement juste un peu de nourriture et un peu d'habits, mais bon, que lui préfère plutôt aller rentrer dans la rue, mendier, se faire porteur à côté des marchés. On a l'impression que lorsqu'on écoute un enfant dire ça, que ça ne se passe pas très bien au centre.
Eh bien, les enfants sont en situation particulièrement difficile, mais d'une manière normale, pour l'éducation d'un enfant, même de chez nous, que ce soit un enfant qui ne soit pas de la rue, l'enfant c'est lui-même qui doit accepter sa formation et au-delà de cela, on ne peut pas faire plus que ça parce que l'enfant c'est l'agent principal de son éducation. Il peut accepter tout comme il fait refuser. Il peut refuser, oui.
Alors, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui est pris, si vous voulez, choisi comme stratégie au niveau du centre pour, si vous voulez, fidéliser les enfants à suivre le programme que vous avez prévu pour eux?
C'est en fait la bonne volonté de l'enfant qui compte plus. Celui qui se montre dévoué, eh bien, il aime la formation, il évolue. Et celui qui ne veut pas suivre la formation, eh bien, il choisit lui-même selon la liberté qu'il a lui-même, parce qu'on ne peut pas lui enlever sa liberté, oui.
On a l'impression que vous baissez les bras.
Non, nous ne sommes pas découragés du tout, parce que nous sommes plutôt courageux, parce que d'ici là, la première promotion à la mécanique et à menuiserie vont sortir. Mmh. Et nous sommes heureux pour ces aspirants de la vie future, de la vie professionnelle. Eh bien, ils seront responsables d'eux-mêmes. Bien sûr, les aléas existent toujours dans la vie, mais ceux-là qui sont dévoués, ils avancent.
Nous avons entendu que vous n'avez pas beaucoup d'appui extérieur. Qui sont vos partenaires dans la mise en œuvre de ce projet?
En fait, les appuis comme tels, financiers par exemple, nous n'avons pas. Nous sommes en train de demander par-ci, par-là, mais les portes ne s'ouvrent pas, ce n'est pas facile. Mais aussi, les missionnaires d'Afrique nous ont aidés jusque-là. Et on ne peut pas compter aussi sur eux éternellement, et certainement ils peuvent dire non. À ce moment-là, qu'est-ce que nous allons faire? Il y a par exemple la Monique, où il y a la protection de l'enfance. Eh bien, ce service n'a qu'à nous ouvrir la porte, parce que ces enfants sont même devant la clôture ici de la Monique. On peut sortir tout à l'heure, on les verra tout de suite aussi. Il faudrait quand même que même Unide puisse voir avec les yeux d'amour et d'autres associations, pour que nous puissions justement revoir même notre nombre à la hausse, le nombre des enfants à la hausse.
Est-ce que vous avez contacté toutes ces agences?
En fait, la Monique, le service de la protection de l'enfance, nous connaît très bien. Elle a été chez nous plusieurs fois pour solliciter aussi des services. On les louera toujours avec les moyens maigres. Il y a plus de chez qui nous avons déposé aussi notre projet. Ça fait bientôt une année et demie, mais aucune réponse, même pas de réponse. Eh bien, voilà nos situations, et c'est compliqué, oui.
Mais quelle est selon vous la solution durable par rapport au phénomène enfant des rues? Est-ce que c'est vous, les ONG? Est-ce que ce sont les agences internationales ou les ONG internationales pour résoudre ce problème? Ou, à votre avis, les problèmes se trouvent ailleurs?
En fait, nous, comme ONG locale, la situation, c'est à nous de la gérer d'une manière correcte. Mais nous sommes formés, nous avons nos forces physiques aussi, mais il faudrait qu'il y ait l'appui. Nous sommes sinistrés ici à Mitouri, nous sommes même traumatisés, nous tous ici, mais il y a lieu que justement les humanitaires puissent venir au secours, nous donner la main. Et voilà, oui.
Parce que je sais pertinemment bien que lorsqu'on encadre des enfants en situation sociale particulièrement difficile, il y a des séances, des communications avec les encadreurs, il y a la fiche d'identification de chaque enfant, et chaque enfant donne son historique, notamment les raisons qui l'ont poussé à rentrer dans la rue. S'il a des parents, il peut arriver que les responsables des centres vont vers les parents pour essayer de comprendre les problèmes et à la limite d'envisager une réunification, une réinsertion familiale. Est-ce que il vous arrive d'aller vers les parents de certains enfants que vous encadrez et que répondent ces parents-là?
En fait, nous travaillons plus avec les parents. Mais le temps pendant lequel on est en train de contacter les parents, c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas laisser aussi l'enfant dans la rue se promener, sinon le travail, l'enfant ne saura pas se débrouiller dans la vie correctement. Mais nous travaillons plus avec les parents pour leur faire comprendre que le lieu par excellence pour un enfant, ce n'est pas plutôt la rue, mais c'est plutôt la maison d'abord et l'école ensuite. On travaille avec les parents.
Qu'est-ce qu'ils vous répondent quand vous leur dites que la place de l'enfant, c'est à la famille et non pas dans la rue?
C'est un processus, monsieur le journaliste. Ce n'est pas tout de suite que aussi les parents sera ouvert. Ils ont plusieurs problèmes qu'il faut étudier petit à petit. C'est un processus, oui. Et nous sommes courageux, nous le faisons. Nous sommes engagés ici à Nitouri. J'encourage les amis de l'Évangile qui se débrouillent.
Voilà, merci beaucoup Richard Poutier-Doumani et bonne chance pour vos actions.
Merci beaucoup monsieur le journaliste.
Au revoir. C'est la fin du magazine Okapi Action. Toute l'équipe se réjouit de votre fidélité et vous donne rendez-vous demain, 9h02, heure de Kinshasa, pour une autre aventure dans vos vies. Je suis Walter Mulondi, je vous ai présenté cette émission. William Lungamba était à la mise en onde, Jody Kachama a fait la régie. On vous retrouve demain avec le même plaisir.